Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.
Nous vous savons nombreux à l'écoute de la Radio de la Paix. Merci de nous suivre. Nous poursuivons notre connaissance de la monnaie numérique ou électronique avec Faustin Onozon, notre expert en économie et en intelligence économique. Ça sera dans quelques minutes dans le cadre de la rubrique Regard sur la gestion de l'économie nationale. Mais bien avant, vous aurez le sens de certains mots que vous entendrez bien sûr dans cette émission. Et ce sera dans le lexique économique qui démarre maintenant. À ne pas oublier aussi les tendances de la bourse, la dernière articulation de cette émission. Bienvenue à tous.
Le lexique économique. Le lexique économique.
La crypto-monnaie.
Les crypto-monnaies sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain, entendez la chaîne de blocs, à travers un registre décentralisé et un protocole informatique crypté.
La e-monnaie ou monnaie numérique ou électronique.
La e-monnaie ou la monnaie électronique a pour but d'accélérer la dématérialisation croissante de l'argent du quotidien, à savoir les paiements sans contact, les cartes de paiement et bien d'autres. Une monnaie numérique offre une alternative aux cartes bancaires, cela en garantissant l'impossibilité du suivi des habitudes d'achat.
Le blanchiment de capitaux.
Le FMI, le Fonds monétaire international, détermine trois phases du blanchiment de capitaux et ce sont le placement, dans un premier temps, l'argent sale collecté par le biais d'activités illicites doit être réinjecté dans le système financier. Ensuite, l'empilement, qui est un processus de blanchiment d'argent provenant d'origines douteuses, voire illégales, et qui consiste dans la multiplication des sociétés écrans et des comptes bancaires pour faire transiter l'argent. Et enfin, il y a l'intégration, la dernière phase, et qui est le mécanisme de réinjection de cette masse d'argent dans le circuit légal.
Regard sur la gestion économique nationale.
C'est toujours un plaisir de retrouver M. Faustin Onozon, notre expert des questions donc, de finance et d'économie. Aujourd'hui encore avec lui, nous allons parler d'un sujet. Vous avez sûrement entendu, pour ceux qui nous ont suivis la semaine passée, on parle en tout cas de ces monnaies électroniques ou numériques. On va donc récapituler un peu les grandes idées développées dans l'émission précédente. M. Faustin Onozon, bonjour.
Bonjour M. Comé.
Encore aujourd'hui, la monnaie électronique... monnaie qui commence à rentrer dans les habitudes puisque les banques centrales, vous l'avez dit la semaine passée, ont décidé de créer ces e-monnaies. Alors justement, la monnaie électronique ou numérique, comment on peut la définir?
Et la monnaie numérique ou électronique est une monnaie stockée légalement sur des mémoires électroniques. Pour les monnaies électroniques qui évoluent dans le cadre des crypto-monnaies, on dira que ces monnaies stockées sur des mémoires électroniques le sont de façon indépendante d'un compte bancaire. Quand je dis de façon indépendante d'un compte bancaire, je vais parler des crypto-monnaies. Et justement, c'est pour, je ne dirais pas pour lutter contre ces crypto-monnaies, mais c'est pour pouvoir maîtriser la trajectoire de la masse monétaire en circulation que les banques centrales ont créé ces e-monnaies. Et pour ces banques centrales, cette monnaie électronique n'est pas indépendante d'un compte bancaire. Vous serez amené à ouvrir votre compte bancaire auprès d'une banque commerciale.
Alors, vous parliez des crypto-monnaies. En Afrique, y a un pays, la Centrafrique, qui est déjà assez avancé. Ils ont décidé, c'est une décision d'État, que la crypto-monnaie ferait partie d'une des monnaies aussi du pays. Quel est votre regard par rapport à cela? Y a-t-il des risques pour un tel pays ou bien aussi beaucoup d'avantages?
Ah non, ce sont des techniques financières qui existent à travers le monde entier. Aujourd'hui même, dans des pays, dans les pays comme les États-Unis d'Amérique, dans certains pays européens, la finance internationale va de pair aussi avec les crypto-monnaies. Donc, je ne vois pas pourquoi je serais contre ce pays qui a décidé de faire comme tous les pays du monde. Et aujourd'hui, les crypto-monnaies gagnent du terrain. Mais je vous le disais tantôt, ce n'est pas forcément en souscrivant pour des crypto-monnaies que vous allez devenir riche et même très riche. Les mêmes difficultés qu'on rencontre dans le cadre de la finance traditionnelle, mais on rencontre les mêmes difficultés au niveau des crypto-monnaies. Seulement là-bas, il y a beaucoup de fluctuations qui peuvent être à votre avantage, ce qui vous permet, un peu comme à la bourse, d'avoir un gain beaucoup plus rapidement. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes protégé par le côté négatif de la gestion des crypto-monnaies.
Et ça, il faut maîtriser en tout cas ce système de yo-yo. Hein. Ça monte, ça descend. Bon, vous pouvez gagner, mais vous pouvez perdre beaucoup.
Mais tout à fait.
Alors, c'est ce qui peut expliquer justement cette décision des banques centrales de pouvoir, on peut dire, maîtriser ce système-là en créant aussi les e-monnaies.
Oui, au niveau des banques centrales, il y a encore beaucoup plus d'alternatives. C'est vrai, il y a la maîtrise de la masse monétaire même en circulation. Parce qu'à la base même des crypto-monnaies, au départ, c'est la masse monétaire. Hein. Vous souscrivez pour un compte en crypto-monnaie, mais vous débitez un compte physique. Vous souscrivez au niveau du compte, et puis après, vous pouvez évoluer dans la crypto-monnaie. Donc, toujours est-il que c'est la masse monétaire en circulation qui évolue, avec à côté d'autres formes de transactions. Voilà. Donc, si les banques centrales ont décidé de mettre l'accent sur les e-monnaies en même temps qu'elles mettent l'accent sur la finance traditionnelle, ben ce n'est pas par hasard. C'est parce que les e-monnaies permettent d'accélérer, comme je l'ai dit, les transactions financières internationales. C'est entièrement sécurisé et puis ça devient une alternative à l'argent liquide. Voilà, c'est pourquoi les banques centrales ont décidé de créer l'e-monnaie à côté de la monnaie que nous utilisons sur le plan traditionnel.
Oui, ça, ce sont des avantages, mais... Bon, pour des novices ou de la population qui ne maîtrise pas ça, ou bien ces e-monnaies sont exclusivement réservées à une catégorie de clientèle?
Non, vous voyez bien, les entreprises de téléphonie cellulaire ont créé aussi certaines formes de monnaie, mais c'est exactement la même chose. Les transactions qui se font entre nous, les clients, mais ça échappe à la banque centrale. Voilà, on ne sait même pas comment ça se fait. Moi, je peux tout à l'heure vous prêter 100 000 francs ou bien 1 million. C'est vrai que les transactions ont été circonscrites. Il y a un niveau qu'on ne doit pas dépasser. Oui, ça, c'est du ressort de la banque centrale. Mais toujours est-il que les transactions se font entre les clients, elles se font librement.
Et bon, je veux dire, c'est cette alternative monnaie physique, monnaie électronique, c'est comme ça qu'on doit comprendre ce système des banques centrales.
Oui, mais ce qui est sûr, vous n'allez pas évoluer avec un compte en e-monnaie, vous n'allez pas évoluer indéfiniment de monnaie électronique en monnaie électronique. Il faut bien un jour que vous alliez pour pouvoir toucher des espèces. Et si vous voulez toucher des espèces, il y a les transactions qui se font dans ce même cadre. C'est exactement la même chose.
Exactement la même chose, mais est-ce que pour ces monnaies, les e-monnaies, ce sont en termes de valeur les mêmes monnaies qu'on a en physique là? Je veux dire, e-monnaie 10 000 francs, e-monnaie 5 000, e-monnaie 1 000 francs, c'est comme ça on doit comprendre la chose?
Oui, c'est ce que je disais, aller un peu vers les structures de téléphonie cellulaire. Quand vous allez, la structure a son nom, n'est-ce pas?
Oui.
Mais quand vous allez pour faire une transaction, c'est en franc CFA, voilà, que vous la faites. Mais ce qui serait intéressant au niveau des e-monnaies, parce que les opérations de transfert de fonds, les e-monnaies peuvent remplacer ces opérations de transfert de fonds. Donc ce sont des opérations qui peuvent se faire en monnaie locale comme en monnaie étrangère. Tout dépendra certainement des liquidités qu'on a dû mettre à votre disposition en termes de monnaie électronique. Ça peut être des devises étrangères, comme ça peut être une monnaie locale.
Est-ce qu'en termes d'avantages, on ne peut pas considérer ça aussi comme une manière de pallier à l'absence de monnaie de fois dans des transactions? Vous pouvez avoir, par exemple, sur vous de l'argent, vous devez payer quelque part, et puis bon, il n'y a pas de la monnaie. Des fois, quand vous avez cette possibilité d'e-monnaie, ça facilite un peu la vie quand même.
Oui, bien sûr. Et comme on le dit, on dit que c'est une alternative à l'argent liquide. Et puis, vous savez que l'argent liquide, la mise sur pied d'une masse monétaire en circulation, elle n'est pas gratuite. L'argent, c'est comme une marchandise. Mais on l'achète. Vous avez votre billet de 10 000 francs, mais celui qui met cette marchandise-là sur pied, mais il paye pour qu'on lui livre le billet. Certainement qu'il paye le billet à 1 000 francs ou à 2 000 francs, je ne sais pas. Donc, l'argent liquide, ça coûte cher dans le cadre de la mise sur pied de la masse monétaire en circulation. Alors que l'autre, c'est purement artificiel. Voilà, on n'a plus rien à payer. On n'a pas. Et puis d'ailleurs même, on me fait savoir que dans le cadre des transactions financières avec l'étranger, les taxes en ce qui concerne l'e-monnaie sont beaucoup moins élevées ou alors elles sont pratiquement nulles. Ça, vous pouvez faire votre transaction comme vous le voulez, comme vous l'entendez. Quand vous voulez, par exemple, au niveau des téléphonies mobiles, lorsque vous voulez faire une transaction, vous ne payez pas une taxe supplémentaire à telle ou telle personne.
Oui, mais bon, je voulais qu'on insiste sur les inconvénients quand même. Hein. Vous aviez, dans la précédente émission, parlé du piratage. Quelqu'un peut accéder à votre compte et puis vider tout ce que vous avez dans votre compte électronique.
Oui, ça, ce sont des risques qui sont liés à tout ce qui est purement numérique ou électronique. Mais c'est pourquoi il faut faire très attention attention. C'est pourquoi il ne faut pas les différents codes que vous avez, mais il ne faut pas les mettre à la disposition de telle ou telle personne. Ce qui est même difficile dans ce genre de transactions, si vous avez perdu votre code, c'est que vous perdez beaucoup de choses, vous perdez aussi beaucoup d'argent. Ça dit, il faut être assez cohérent avec soi-même. C'est vrai qu'il y a le piratage des comptes, mais même les comptes que nous avons au niveau de la finance traditionnelle, c'est des comptes qui sont aussi piratés quelquefois. Donc, il faut faire très attention, c'est tout.
Il faut faire attention. Alors, est-ce qu'on peut, en termes de projection, se dire, à un certain moment, les monnaies traditionnelles risquent de disparaître quand les habitudes aujourd'hui, en parlant des transferts d'argent, dans des villages même, on a cette facilité-là de transférer, c'est vrai qu'après, on s'en récupère en argent physique, mais est-ce qu'à terme, on peut aller vers là, avoir du tout, du 100% électronique en termes de monnaie?
Non, je ne pense pas, parce que elle dépend de, la gestion de ces monnaies électroniques dépend des portefeuilles électroniques que vous avez. Le portefeuille électronique se gère par rapport à votre smartphone, à votre portable que vous voyez. Vous n'allez quand même pas aller dans tous les endroits de votre pays ou alors partout où vous êtes, vous n'allez pas utiliser essentiellement le smartphone pour pouvoir faire toutes vos transactions. Mm-hmm. C'est vrai que c'est facile, c'est un peu plus cohérent, mais on peut le voler aussi de la même manière qu'on vole l'argent. Donc, je ne crois pas que les e-monnaies, les monnaies numériques ou électroniques, à terme, vont faire disparaître la monnaie fiduciaire. Bien au contraire, c'est vrai que c'est une alternative à l'argent liquide, mais la monnaie fiduciaire va toujours exister.
Est-ce que pour vous, cette monnaie permet de résoudre les questions de traçabilité donc des opérations? On parle de plus en plus, hein, il y a des structures au niveau sous-régional, le GIABA et bien d'autres qui luttent contre le blanchiment d'argent. Ce serait une des solutions, selon vous, ces e-monnaies mises en place par les banques centrales?
Oui, au niveau des banques centrales, ce sont des monnaies qui seront totalement contrôlés, à la différence des crypto-monnaies par exemple. Les e-monnaies, eux, le problème de traçabilité, ça a été réglé au niveau des banques centrales. Mm-hmm. Justement, l'e-monnaie permet aux différentes banques centrales de résoudre le problème du blanchiment des capitaux et de la lutte contre la criminalité financière par exemple. Avec la finance traditionnelle, c'est un peu plus difficile. Mais de l'autre côté, il y a une traçabilité qui est tout à fait exceptionnelle.
Alors, pour terminer, M. Onozon, est-ce qu'il y a un pays avant-gardiste déjà qui joue un peu comme un gendarme en matière de e-monnaie? Je fais référence à cette monnaie, le dollar, qui est connue. Est-ce que déjà, au niveau des e-monnaies, il y a une monnaie ou d'un pays qui devient un peu comme la monnaie des références pour les transactions?
Ah oui, je sais qu'un pays comme la Chine est très avancé dans ce cadre-là. Eux-mêmes, en ce qui concerne l'e-monnaie, au niveau de la monnaie chinoise, ils ont même créé des billets, des banques en e-monnaie, toute forme de transaction, tout ce qui existe au niveau des monnaies fiduciaires, ils l'ont créé en e-monnaie. Ce dont je suis sûr, c'est que l'e-monnaie va peut-être accélérer un tout petit peu la dématérialisation de l'argent. Mais cela ne veut pas dire que ça va faire disparaître l'argent tel qu'on le connaît. Je veux parler de la monnaie fiduciaire. Et donc, les pays qui sont mis sur cette trajectoire, je pense que ce sont des pays qui sont en train de prendre l'avance.
Merci à vous, M. Onozon.
Merci, M. Koumi.
On se retrouve à beaucoup de plaisir pour d'autres sujets. Portez-vous bien.
Tendance de la bourse.
Je suis sûr que vous aimez ce rendez-vous à mes auditeurs parce que ça nous apprend beaucoup de choses. Nous sommes avec notre consultant en matière de questions boursières, M. Kwao Brice. M. Kwao, bonjour.
Bonjour M. Koumi, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, vous vous incitez à travers le code de la bourse à investir en bourse, à acheter des actions. Oui, c'est un risque aussi. Justement, parlant des risques, M. Kwao, acheter des actions, avoir des dividendes, ça c'est quand les choses se passent bien. Mais on arrive à des situations où l'entreprise aussi peut faire faillite. Alors, dans ce cas, je perds mes gains.
Il faut situer les choses. Investir en bourse en général n'implique pas toujours de perdre son capital. Ça dépend du produit que les investisseurs ont acquis. Si vous avez acheté des obligations, ce sont des titres de créance, donc l'entreprise vous est redevable et elle va vous rendre votre argent. Et si ça va vraiment pas qu'on doit la liquider, on la liquide et on vous rétrocède votre argent. C'est ça le concept d'être un créancier. C'est que votre argent est dû. C'est une dette pour l'entreprise, c'est une créance pour vous.
Mais vous avez dit en son temps que lorsqu'on est actionnaire, on est copropriétaire de l'entreprise. Alors l'entreprise ne va pas.
on va vous dire, bon, en tant que propriétaire, bon, on va fermer. Hein.
C'est pour ça que j'ai voulu préciser, le risque est sur certains, mais pas forcément sur tous. Donc, pour ceux qui achètent des obligations, ils n'ont pas cette crainte que vous évoquez. Pour ceux qui achètent des actions, effectivement, tu es copropriétaire d'une entreprise. Prenez ça tellement simplement, copropriétaire des maquis. Et si le maquis était rasé, tu n'as plus rien. Donc, le capital que tu as mis dans l'entreprise est perdu si l'entreprise n'existe plus. Maintenant, il faut préciser autre chose. Nous sommes à la BFVM. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous parlons de la BFVM. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est le risque des faillites. Ça, c'est un beau discours. Mais quelles sont les entreprises qui sont face à nous? Et quel est le risque qu'elles aient face à faillite? Quand on parle de la bourse en général, on parle d'entreprises qui viennent lever des financements pour se développer. Donc, on a eu récemment un opérateur d'e-commerce qui allait à la bourse de New York pour lever des fonds. Ceux qui ne savent pas, cet opérateur d'e-commerce fait des pertes. Il n'est pas bénéficiaire. Depuis qu'il existe, il fait des pertes. Justement, il est en phase de croissance. Donc, il cherche des capitaux pour investir, pour se développer dans tous les pays, pour être la plateforme de référence d'e-commerce en Afrique. Et c'est à ce moment-là qu'il sera rentable. Mais est-ce que c'est ce type d'entreprise-là que la BFVM reçoit? Est-ce que ce sont des entreprises en phase de développement qui ont de fait un niveau de risque plus élevé? Je vais vous surprendre. À la BFVM, on n'a pas ce type d'entreprise-là.
Ah bon? C'est quoi? C'est un blocage, un mécanisme qui est mis en place pour éviter que des entreprises qui, en guillemets, ne sont pas sûres, n'y aillent?
En fait, notre bourse est très jeune et s'est construite d'une façon atypique. Elle a hérité, la BFVM, des valeurs de la bourse, des valeurs d'Abidjan, essentiellement. Ces valeurs-là sont des sociétés, je vais dire françaises, comme ça, sans citer de nom, qui étaient là et à la faveur peut-être de l'installation, qui avait des actionnaires locaux et tout ça. Et bon, tout ça s'était reversé après sur une bourse. On n'a même pas la documentation, même. C'est quelque chose de très vieux. Moi, je connais des gens qui achetaient des actions en 87. Mais quand vous parlez de la première banque de Côte d'Ivoire, pour ne pas citer son nom, quand vous parlez de la deuxième banque de Côte d'Ivoire, vous ne parlez pas d'entreprises qui ont besoin d'argent pour se développer au sens ouverture de capital. C'est des entreprises qui ont déjà émis leurs actions à l'époque. Je vous parle des années 80. Et ces actions circulent jusqu'aujourd'hui. Ces entreprises ne sont pas en phase de développement. Je vais prendre juste deux exemples sans citer les entreprises pour que vous compreniez mieux. Au niveau des bancaires ivoiriennes, on a les 8 premières banques de Côte d'Ivoire qui font 80% de l'activité bancaire du pays. Les 8 premières banques. Pour précision, la Côte d'Ivoire a 28 banques et les 8 premières font 80% de l'activité. 7 parmi ces 8-là sont à la BFVM. Donc, on ne parle pas de sociétés jeunes, on parle des 7 premières banques de Côte d'Ivoire qui, à la faveur, comme j'ai dit, de l'histoire, ont eu leurs actions retrouvées en bourse. Donc, ce n'est pas vraiment le type d'entreprise qui a tendance à faire faillite. Deuxième cas, c'est au niveau de la distribution de carburant. Les deux premiers opérateurs de distribution de carburant que vous connaissez en Côte d'Ivoire, que vous voyez souvent, forment à eux deux 63% du commerce de carburant en Côte d'Ivoire, donné de 2018. Donc, quand tu as les deux premiers vendeurs de voitures d'un pays, les deux premiers distributeurs de carburant d'un pays ou les 8 premières banques d'un pays, tu n'as pas le profil d'entreprise qui a tendance à faire faillite. Tu as les entreprises solides de ces pays.
Comme pour dire, hein, pour vous résumer, qu'il y a moins de risques à s'intéresser à ces entreprises, acheter les actions de ces entreprises.
Elles maîtrisent les marchés et elles sont comme des socles dans les économies. Elles font la même chose depuis 100 ans, elles le font très bien.
Alors, revenons à la question principale que j'ai eu à poser. Est-ce que, si malheureusement on a une entreprise qui fait faillite, je perds mes gains quand je suis actionnaire?
J'ai répondu à cette question. Oui, c'est exactement comme si tu étais actionnaire d'un maquis ou actionnaire d'une plantation. Maintenant, la question, c'est de dire quelle est la probabilité que ça se passe. Si par exemple, on est dans le domaine des assurances, qui est mon domaine professionnel, on va évaluer la probabilité, on va tarifier, on va dire, bon, tu dois payer telle prime.
Mais si c'est présenté comme ça, alors, monsieur Kwao, monsieur Komé, j'ai besoin des actions de ces entreprises sûres, comme on peut dire. C'est un peu comme si c'est bouclé aujourd'hui. Est-ce que je peux en avoir?
Vous pouvez en avoir parce que, justement, les investisseurs ont des intérêts divergents. Ce qui fait le charme de la bourse. Il y a, on l'a dit au tout début, deux types d'acteurs, les spéculateurs et les investisseurs. Donc, il y a des gens qui achètent une action à 4000 qui sont très heureux de la revendre à 4800. Cela fait 20% de gain, peut-être en un mois, en deux mois. Le mec, il a mis 1 million dessus, il a 200 000 francs, il est content. Il y a des gens comme moi qui disent, ce qui est bien, c'est d'avoir un système qui génère des revenus passifs. On a parlé dans une émission des revenus qui viennent sans que tu n'aies fourni de prestations, qui viennent sans que tu n'aies donné de ton temps, comme des loyers de maison. Voilà. Donc, quand on achète des actions, nous, effectivement, on a tendance à les conserver. Moi, j'ai des actions en portefeuille depuis 2015 qui n'ont pas bougé. Et on en a comme ça dans l'école, qui ont des actions depuis 2015, 2008, 2009, qui n'ont pas vendu. Donc, c'est ça, c'est deux groupes d'acteurs là qui sont sur le marché. Donc, avec l'action des spéculateurs, avec l'action des fonds d'investissement, il y a une certaine rotation des valeurs qui permet à tous ceux qui le souhaitent réellement d'acheter des titres.
Et revendre si possible.
Effectivement. Comme j'ai dit, ça dépend des titres. Donc, aujourd'hui, il y a plus d'actions en circulation. Ça crée une forme de liquidité pour le marché.
Alors, en tant que consultant, pour terminer avec ce sujet, il y a des risques, hein, comme vous l'avez dit, peut-être d'avoir des actions et puis perdre son argent. Mais bon, comme vous l'avez aussi noté, les entreprises qui sont à la bourse, ce sont des entreprises solides. Donc, avoir des actions de ces entreprises-là, on est sûr qu'on peut quand même avoir des dividendes sur une longue longue période, hein, c'est ce que je comprends.
C'est bien ça, c'est exactement comme quand votre enfant trouve un emploi dans ses entreprises, vous êtes tenté de vous inquiéter, est-ce qu'il sera payé à la fin du mois? Pourtant, quand il trouve un même emploi dans une PME, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Mais les grandes entreprises de notre marché, je ne dirai pas le nom de cette entreprise-là, mais elles vendent du carburant, elles en Côte d'Ivoire depuis 1902, pour vous donner une idée. Si quelqu'un est là depuis 1902, franchement, vous n'avez pas à craindre. Il a tout vu, tout ce qui était possible de voir, et il est resté, et il continue de gagner de l'argent. Pourquoi pas vous en donner aussi?
Merci à vous, Monsieur Kouaou.
Merci, Monsieur Koumé, merci à tous les auditeurs.
Voilà, on se retrouvera avec beaucoup de plaisir dans un autre numéro d'Economia. À la semaine prochaine.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.